Jonathan Millet, bonjour.
Bonjour.
Alors, très heureux de vous retrouver ici à Cannes, dans le cadre de l'initiative Tent to Watch, édition 2025, initiée par Unifrance. Cannes, vous connaissez, l'année dernière, Les Fantômes, la semaine de la critique. Un an après, quels souvenirs gardez-vous ?
Ça a été incroyable, c'est-à-dire que toute mon année n'a été que d'accompagner Les Fantômes, et tout a débuté ici. Et quand je dis tout a débuté, je me rends compte que même le fait que le film vive à l'étranger, ça a commencé là. Quand je vais dans tel ou tel pays qui sortent le film, les distributeurs me disent « on l'a vu à Cannes le premier soir dans la salle de la semaine de la critique ». Donc je me rends compte vraiment que l'année incroyable que je viens de vivre, en fait, elle s'est jouée dans ces séances multiples à Cannes il y a un an.
C'est fou ça.
Et c'est assez fou de se le dire, ouais.
Et quand vous avez commencé ce projet-là, vous pensiez... Imaginez que vous seriez un jour dans un tel festival.
On se prend à rêver ou à...
À quel moment?
En fait, faire un film, c'est alterner de l'espoir et du désespoir. Donc, de temps en temps, on se dit, et si le film pouvait plaire et briller? Et à d'autres moments, on se dit, c'est trop dur, c'est trop sombre, ça va pas le faire. Et on alterne, c'est un grand 8 d'émotion, disons. Mais... Il faut être humble et se dire je fais le film de mon côté qui me paraît être le meilleur et après je verrai ce qui se passe. Après on sent bien pour un premier film en France qu'il y a aussi une pression de alors est-ce qu'il va être pris ou pas à Cannes et qu'on doit vivre avec et que l'avoir eu c'était un vrai plaisir et aussi un soulagement.
Alors justement en parlant d'Unifrance, mais New York avec un prix pour le 30e anniversaire,
c'est tout à fait
énorme ça. Hein,
alors c'était énorme et
là, c'est la suite de la folie, quand même.
C'est la suite de la folie et le timing tombe bien puisqu'il sort la semaine prochaine aux États-Unis, à New York, dans cette même salle où Unifrance l'a montré pour la première fois. Donc oui, c'est vrai que c'est beau. En plus, moi, mes influences pour Les Fantômes, elles viennent plutôt du cinéma américain des années 70, 80, et qu'il ait la chance de sortir aux États-Unis parce que je sais que tous les films étrangers n'ont pas cette chance.
C'est Surtout maintenant,
évidemment, encore plus. C'est un vrai bonheur.
Et est-ce que ça a un impact, je veux dire, au niveau du public anglo-saxon, une telle médiatisation d'un prix Unifrance?
Oui, tout à fait. D'ailleurs, le distributeur sait bien à quel point un prix résonne, qu'un prix Unifrance, c'est quelque chose qui a du poids. Et donc, tout à fait, ça donne un peu d'aura en plus au film, très clairement.
Alors, voyager, ben, le film vous a amené à voyager. Vous connaissez les voyages, on peut le dire, quasi autour du monde. J'ai noté notamment Iran, Pakistan, Amérique du Sud, Proche-Orient, Afrique. Vous avez toujours la bougeotte ?
J'ai toujours la bougeotte. Là, c'est vrai que je le vis bien en accompagnant mon film.
J'ai fait un prétexte, quoi.
J'ai fait 22 pays, là, en accompagnant les photos.
Ah, oui, carrément.
Donc, pour mon passeport, c'était merveilleux. Et c'est vrai que les films que je commence à écrire là, les films que j'imagine faire par la suite, se passent ailleurs ou convoquent des comédiens, des personnages qui viennent d'autres pays, d'autres langues. C'est quelque chose qui m'intéresse, de me dire que mon regard d'étranger, c'est un point de vue un peu particulier sur des endroits du monde. Enfin, que ça m'intéresse de raconter cet ailleurs-là.
Vous avez quoi, des carnets, des petites notes que vous amassez? Un carnet de voyage.
Alors, j'ai clairement des carnets où je prends des notes, c'est vrai. Après, quand il s'agit de faire que ça devienne un projet de film, j'ai une liste de filtres. C'est-à-dire que je suis excité par plein d'idées ou de projets, mais il faut que ça passe une liste de 10 filtres pour pouvoir passer dans le carnet sérieux. Parce que sinon, on s'émoustille pour des choses et on sent à la fin que ça devient pas un projet. Donc, j'ai tendance à être aussi curieux que possible, disons, à m'intéresser au monde, au réel, aux histoires, à ce que j'entends, aux rencontres. Et il faut un peu de temps pour que ça passe du carnet d'idées au carnet sérieux.
Alors, Les Rêves Tempêtes, ça c'est le gros projet.
C'est vrai. Alors lui, là par exemple, il a passé les 10
étapes.
Les 10 étapes, exactement.
Un thriller psychologique?
Oui, c'est ça. Alors c'est vrai que thriller, on l'utilise beaucoup. En tout cas, moi ce qui m'intéresse, c'est un film... où en tant que spectateur, on est pris dans une intrigue, c'est-à-dire qu'on se pose des questions. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que moi, c'est mon plaisir aussi de cinéma, de m'installer dans un écran, devant un écran, et de me dire, on peut me faire découvrir des mondes, des choses, des personnages, mais j'ai envie, j'ai un plaisir à être pris du début à la fin et que mon cerveau fonctionne à plein. J'aime bien laisser un peu d'espace au spectateur et qu'il réfléchisse, qu'il se demande, qu'il commence à proposer des invectives, des idées, et que le spectateur ait un rôle actif.
Voyage de la pensée, dans la pensée ou à réalité imaginaire, vont se confondre finalement là.
Un petit peu, c'est vrai que le travail sur ce qui se passe au fond de l'esprit, ça m'intéresse. L'inconscient, l'enfoui, enfin j'ai l'impression que j'ai exploré plusieurs continents, mais que celui-là, il est toujours un peu mystérieux, et que ça me fascine. Et j'ai l'impression que le cinéma...
Ça vous vient d'où cette fascination ? De votre enfance ou quoi ? Aux études ou
Pour le monde ou pour l'inconscient ?
L'inconscient, hein.
Je crois que c'est vraiment en tant que pur lecteur ou spectateur de cinéma, j'ai l'impression que dès qu'on commence à saisir dans sa complexité un être humain, un personnage, alors il se passe quelque chose. J'ai l'impression que les films qui m'intéressent le moins sont des films où les personnages sont un peu superficiels, basiques, rangés dans des catégories. Alors qu'en fait, ce qui est fort avec l'inconscient, c'est que tout le monde est noir et blanc à la fois et relève d'un bouillonnement de pensées, d'idées, d'émotions, d'envie, de direction assez facile. Et j'ai l'impression que le cinéma permet un peu d'accéder à ça, d'avoir l'impression qu'on dépasse la couche première, le visage, la parole, et qu'on peut toucher du doigt des choses sensibles, ce qu'on n'a pas toujours l'occasion dans la vie. Donc ça m'intéresse d'aller creuser ça.
Vous verrez bien dans la 4D, finalement, non ?
Eh ben, j'ai l'impression déjà qu'en mettant des images et du son, on arrive assez loin, sans même avoir besoin de technique, disons.
Intelligence artificielle, on en parle beaucoup. Selon vous, ça va amener quoi dans le futur du cinéma ? Quand on voit les effets spéciaux, les voix, les comédiens, même l'écriture des scénarios ?
Je ne sais pas si je maîtrise bien. J'ai l'impression que tous les 5 ans, on raconte qu'une nouvelle technique va révolutionner le cinéma et tout changer. C'était la même chose à un moment sur ces fameux films en relief, en 4D. C'était la même chose sur des nouvelles techniques, des nouvelles fabrications, le numérique. Moi, j'ai l'impression quand même que les films qui me plaisent sont des films qui rentrent pas dans des cases, donc qui peuvent pas être écrits par l'intelligence artificielle, par exemple. Je crois beaucoup à la fragilité de l'être humain quand il écrit pour pouvoir faire des films auxquels on ne s'attend pas et qui nous surprennent. Et ça peut pas relever d'une intelligence artificielle. Donc, j'ai l'impression que ça va plutôt toucher des métiers liés au cinéma, mais... qui ne sont peut-être pas le maître mot de ce qui me touche moi en tant que création dans le film d'auteur, j'entends. Donc effectivement, sur le doublage, sur des choses ainsi, The Brutalist, pour aller chercher un accent hongrois chez les personnages, pourquoi pas, mais à cet endroit-là, ça reste à la marge.
Vous avez coécrit avec Virginie Leger. Quel était votre modus operandi là ?
Pour Les Rêves Tempêtes ?
Ouais.
Tout à fait. Alors j'ai commencé avec Virginie, et le film là, se poursuit avec une autre scénariste, qui s'appelle Laure Shishmanov, qui est une scénariste qui vient de Russie, qui a travaillé comme moi au Tadjikistan, qui a des histoires de chamans et de géographie incroyables aussi dans le monde.
Et c'est des rencontres qui se font comment, ça ? Le hasard ? Vous croyez au hasard ?
Je crois qu'on crée les hasards. C'est-à-dire que on raconte un peu qui on est et les aimants s'attirent d'une certaine façon. C'est à ça que je crois.
Et qu'est-ce qu'elle a apporté dans...
En fait... J'ai l'impression, moi, de croire qu'un scénario, c'est un ping-pong. C'est-à-dire que toute idée doit être débattue, parfois tout seul, mais en fait, en débattant à deux, à un moment, on crée des mondes, tout va plus vite et tout a plus de densité. Donc, je crois vraiment au fait d'être à deux et d'avoir un regard qui me correspond pas. Elle vient d'une écriture plutôt de série, plus droite, j'allais dire. Et donc, ça marche assez bien, cette complémentarité.
Alors au niveau des producteurs, c'est toujours les films Rawitz, c'est toujours Lionel Masseul et Pauline Zegler. On ne change pas une équipe qui gagne, maintenant.
Non, c'est sûr. Puis surtout, avant Les Fantômes, ça faisait 8 ans qu'on travaillait ensemble. On avait fait nos cours ensemble, on avait commencé mon premier court métrage, c'est leur premier court métrage à Rawitz, et Les Fantômes, c'est le deuxième long qui sortait. Et c'est vrai qu'avec Pauline, on a vraiment bâti ensemble une façon de travailler qui marche bien et pour elle et pour moi, et qui est faite en fonction des projets. pour s'adapter. Sur Les Fantômes, on avait une coproduction allemande, une coproduction belge, on a tourné en Jordanie avec une production exécutive. Là, sur Les Rêves Tempêtes, on imagine d'autres pays, mais on voit bien que le binôme de travail qu'on a créé marche et s'adaptera à tout ça.
Quelques mots du casting?
Eh ben, c'est encore ma grande question. Non, c'est vrai que j'écris souvent en me figurant des comédiens, comment dire, qui ont maintenant 40 ans de plus. Enfin, je veux dire, j'essaie d'avoir des images de comédiens, mais qui correspondent pas au rôle, pour pouvoir avoir un peu d'incarnation, mais pas être fermé. Donc, je reste assez ouvert. J'ai l'impression que ce sera un casting plutôt européen. C'est-à-dire avec des comédiens qui peuvent jouer en français, mais aussi en anglais ou dans leur propre langue. Et c'est un film où les langues sont faites pour se mélanger.
Il s'agit d'un documentaliste. On peut dire qu'il y a un peu de vous.
De toute façon, il y a toujours beaucoup de moi, même quand je regarde Les Fantômes où je sens un personnage muré dans son obsession. Moi, je cherche pas des bourreaux, je cherche à faire mes films, mais dans le fond, j'ai l'impression de laisser beaucoup de moi dans chacun de mes personnages.
Je vous attends un grand merci. Donc, on rappelle que vous faites partie de la grande aventure des Ten to Watch 2025. Et encore bon voyage.
Merci beaucoup.